Bonjour et bienvenue sur En Conscience, le podcast qui partage des conseils et des interviews aux professionnels de l'accompagnement de l'humain pour réveiller votre pratique et votre posture d'accompagnant. Je suis Anne Monaroul, fondatrice de l'école Vibre, et notre objectif est de vous offrir un espace d'exploration pour vous éveiller et vous développer en conscience. Si vous voulez faire un pas de côté et vous inspirer, abonnez-vous et retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode.
Bonjour et bienvenue dans notre podcast En Conscience. Je suis Séverine, votre hôte pour aujourd'hui, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Pour ce troisième épisode, j'ai la joie d'accueillir Anne Jamelot Bonailly, sophrologue, auteur et égologue. Bonjour Anne.
Bonjour Séverine.
Je vais commencer par te présenter, mais avant ça, comme il est possible que nos auditeurs entendent des sons particuliers, je voudrais juste vous prévenir, ce n'est pas le micro qui est défaillant, ce sera le syndrome Gilles de la Tourette qui s'exprimera. Alors Anne, tu es née à Nantes et tu incarnes pour nous la fusion entre la sophrologie, l'entrepreneuriat et le dépassement personnel. Tu es titulaire d'un brevet d'état d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme. Et tu as exercé en tant que professeur de gym avant de te plonger dans le monde de la sophrologie. Ton parcours atypique est marqué par le syndrome Gilles de la Tourette que tu nous définiras tout à l'heure. Et ce syndrome se révèle à la fois être un handicap mais également une source de vie. En 1993, tu as entrepris des études de sophrologie à l'Institut de sophrologie de Rennes et tu as développé par la suite une sophrologie posturale au sein de Cénégym. Tu as su élargir ton champ d'expertise, à la gestion du stress, la relation d'aide, le Reiki, le EFT, le yoga du rire, et je suis sûre que j'en oublie. Et depuis quelques temps, notamment en 2016, tu as créé l'ADAE. Alors l'ADAE, tu nous en parleras plus tard, c'est l'aide au discernement pour l'ajustement et l'harmonisation de l'ego. Et c'est un concept qui est axé sur le stress relationnel et l'hypersensibilité relationnelle. Tu es auteur de plusieurs ouvrages, dont Authentique, le dernier, et tu explores également...
L'avant-dernier.
Et alors le dernier...
C'est Histoires érotiques.
Ah ok, donc Histoires érotiques, le dernier. Tu explores également le pouvoir du storytelling à travers ta chaîne YouTube, qui s'appelle Du coq à l'âne. Oui. Tu animes des conférences depuis plus de 20 ans et tu partages ton expérience sur la sophrologie, sur le stress, le Reiki... Le syndrome Gilles de la Tourette, notamment. En 2022, tu as lancé une nouvelle formation, une formation longue également, dont tu nous parleras tout à l'heure, une formation en égologie qui démontre ton engagement continu dans le domaine de la sophrologie. Et je suis, moi, absolument ravie de t'interviewer parce que je te connais depuis bien plus longtemps que tu ne me connais. Donc, je suis plutôt émue. Et notre rencontre en septembre de l'année dernière m'a beaucoup marquée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ton parcours exceptionnel et découvrir tes réflexions sur l'entrepreneuriat, sur le handicap et puis sur la puissance de la sophrologie puisque c'est vraiment ce qui t'anime dans l'équilibre personnel et professionnel. Merci d'être là.
Merci Séverine, moi aussi je suis émue.
On va commencer déjà par peut-être définir ce qu'est le syndrome Gilles de la Tourette pour que nos auditeurs puissent comprendre un peu mieux de quoi on parle.
Alors, le syndrome de Gilles de la Tourette, en fait, c'est un handicap, une maladie c'est un syndrome. Donc, c'est un mélange d'un tas de choses, comme tous les syndromes. Et en fait, ça se manifeste par des tics, voilà, très violents, à la fois physiques, mais aussi sonores, verbaux et vocaux. Vocaux parce que c'est vocal. L'écolalie, par exemple, si je répète, ça fait drôle. Hein, d'accord, ça c'est l'écolalie, c'est-à-dire qu'on répète plusieurs fois la même chose. Je peux reprendre les trucs que tu dis aussi et faire de l'écolalie. Voilà. des gestes très violents qui se voient, évidemment, hein, des grands gestes, des petits gestes, beaucoup de clignements d'yeux, mais beaucoup de choses au niveau aussi de tous les muscles du corps sont concernés. Donc c'est extrêmement fatigant, mais ça peut être aussi des muscles internes, donc ça ne se voit pas forcément. Donc, mais à l'intérieur, je ne te dis pas comment ça bousille les articulations. Moi, je suis bourrée de micro-tendinite, de bursite aussi. Donc, c'est extrêmement douloureux. Et puis, ben, verbaux, parce qu'on ben, peut dire un tas de trucs. Voilà, et sonore, parce que c'est... Donc, ça peut venir pendant l'enregistrement. Et puis, il y a aussi, ben, alors, c'est souvent beaucoup plus connu... à cause des gros mots. Donc ça s'appelle la coprolalie, mais la coprolalie, il y a très peu de gens qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette qui en sont atteints.
D'accord.
Voilà, mais c'est surtout par là que les gens reconnaissent le syndrome de Tourette, parce que bah, c'est amusant, c'est impressionnant, et puis c'est bien pour faire des sketchs pour les humoristes, si tu veux. Donc voilà. Mais en fait, c'est évidemment, ça existe, hein, et c'est une très très grande souffrance.
C'est une des composantes.
Mais c'est une des composantes. Mais il y a tout le reste que je décris dans mon bouquin Authentique.
Justement.
Voilà.
Mais merci déjà pour cette description. Alors là, on va parler un peu plus entrepreneuriat, mais toujours autour de ce handicap. Ouais. Et la première question qu'on avait envie de te poser, c'était de savoir comment tu avais pu intégrer justement ton expérience du syndrome Gilles de la Tourette dans ton parcours entrepreneurial, parce que ça fait plus de 20 ans maintenant que tu es entrepreneur.
En fait, j'exerce la sophrologie depuis 29 ans maintenant. Donc j'ai commencé en étant salarié dans les associations où j'ai travaillé en tant que prof de culture physique. C'est pas prof auprès des enfants, hein, c'est culture physique, c'est fitness quoi, si tu veux. Hein, ouais. Pour résumer, coach fitness. On peut dire je suis coach du coup.
Ça claque.
Ça claque. Voilà. Et ensuite je me suis installée en tant que auto-entrepreneur en 2009. Donc j'étais hybride, à la fois salarié dans les associations, en tant que prof de gym, sophrologue. Je faisais aussi gestion du stress déjà, et yoga du rire, et dans mon cabinet, donc chez moi, en tant que sophrologue et tout ça. Et puis je suis vraiment uniquement en entrepreneuriat depuis 2021, je crois.
D'accord.
22, je ne sais plus. Enfin, c'est récent, où j'ai plus que ça. Voilà, j'ai arrêté les associations. Et je n'exerce plus la gym, que j'ai exercée quand même pendant 35 ans. Voilà, mais on peut retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai enregistré pour pas que ça soit perdu. J'aime pas le gâchis, donc j'enregistre pour que ça puisse profiter aussi à tout le monde, quoi, voilà, toutes les personnes qui ont envie de s'y intéresser. Donc, en fait, mon parcours. Alors, ta question, c'était comment...
comment est-ce que ce handicap, qui est donc aussi bien visible que invisible, a pu influencer ton parcours d'entrepreneur
Voilà, c'est pour ça que je citais le truc. D'entrepreneur, en effet... Alors, en fait, j'ai su qu'à l'âge de 27 ans, que j'avais le syndrome de Gilles de la Tourette.
D'accord.
Ça n'a pas été diagnostiqué avant. Je l'ai su par la télé. Et ça a influencé dans le sens où à partir du moment où j'ai su mettre un nom dessus, ça a été une carte d'identité pour moi. Bon, j'ai su à l'âge de 29 ans. J'ai commencé mes études de sophrologie à 27 ans. J'ai su à 29 ans. Et de pouvoir poser un nom sur un handicap terrible comme ça, parce que c'était la honte, quoi. Chaque fois que je faisais un geste et tout, c'était, je m'excusais ou je disais il y a des mouches.
Tu trouvais des stratégies.
Parce que je ne savais pas ce que j'avais.
Donc, bien sûr.
C'était quand même une tare, quoi. Et en fait, pour moi, à partir de ce moment-là, c'était une carte d'identité. C'est-à-dire que dans les conférences que je faisais, les réunions d'information, enfin, qui tournaient vite à la conférence et tout ça, j'expliquais ce que j'avais. Et donc, ça intéressait énormément les gens. En plus, j'étais la preuve vivante que la sophro était fonctionnelle, puisque au bout de 2 années de sophro, donc mes 2 années d'études de sophrologie, j'avais quand même baissé de 80% les symptômes.
Ce qui est énorme.
Ce qui est énorme. J'avais vu un neurologue qui m'avait dit, même en opérant, même avec les médicaments, on n'arrive pas à ces résultats-là. Donc, c'était une grande victoire pour moi. Et donc, ça faisait partie aussi de ma carte d'identité. Et donc, ça m'a permis, moi aussi, de... tant qu'à faire, autant avoir ce truc-là, autant en faire quelque chose, quoi. Hein. Donc, je le mettais en avant. Et je mettais en avant aussi mon corps. Parce que quand je faisais des conférences, ben, j'avais des tics, mais quand même pas grand-chose. Donc, les gens qui connaissaient un petit peu ou à qui je pouvais expliquer étaient quand même bluffés de voir que je pouvais, moi, juguler, gérer, comme on dit. Hein, voilà. Donc, pour moi, c'est plus de la maîtrise maintenant. Hein, c'est plus de la maîtrise. C'est-à-dire une connaissance de moi. Donc, en fait, je suis mon propre porte-parole grâce à ce syndrome que j'ai étudié, mais à fond, mais décortiqué comme c'est pas possible, pour pouvoir exposer ça aux gens et pour pouvoir les accompagner aussi dans toute leur souffrance, finalement, hein, puisque je suis moi-même en grande souffrance depuis l'âge de 7 ans, quand même. Mm-hmm. Et ça a été pour moi une carte très, très forte. Oui, en tant que, on dit quoi, auto-entrepreneur, entrepreneur.
Entrepreneur, c'est bien.
Entrepreneur, d'accord.
Ouais.
Oui. Pour moi, ça a été une grande force.
Mmh.
Ouais.
Merci.
Ouais.
Une autre question, et justement là, on revient juste à la difficulté, enfin, haute difficulté, parce que je pense qu'on peut le mettre au pluriel, que tu as dû rencontrer dans ce parcours, encore une fois, entrepreneurial, c'est quels sont les défis liés à ton handicap qui ont pu être une difficulté et quelles sont les stratégies que tu as pu mettre en place?
Les difficultés, eh bien en fait, c'est que les difficultés, ce qui me vient là spontanément, c'est je ne peux pas avoir de patron.
Ouais.
Je ne peux pas avoir quelqu'un qui me commande.
Mmh.
Je ne peux pas avoir quelqu'un qui me donne des ordres, qui c'est pas possible parce que ça me met très vite en réaction.
Mmh.
Donc c'est mon ego qui est derrière. C'est pas pour ça que c'est pas pour rien que je suis devenue égologue. C'est un gros parcours aussi. C'est pas juste tiens, c'est parce que j'ai travaillé sur mon ego. Je me suis rendu compte de tout ça et en réaction tout le temps. Donc qui dit réaction dit tic.
Ouais.
Donc c'était pas possible quoi. Donc ça c'était important pour moi de trouver quelque chose. Les associations c'était cool parce qu'on me foutait la paix. Les présidents d'associations me donnaient carte blanche.
Ils faisaient confiance. Ils
avaient tout à fait confiance dans mon travail. Et puis après, c'est vrai qu'en auto, en tant que... Oh, merdouille en tant que... Alors ça, c'est pas de la copronalie, hein. C'est vraiment merdouille. C'est dur à dire ce truc-là.
Entrepreneur.
là, c'était super, quoi. Parce qu'en effet, pas de patron. Par contre, c'est vrai qu'il faut se faire connaître,
ouais.
Il faut se bouger le derrière, voilà. Et je peux pas attendre de quelqu'un qui m'amène la clientèle, tout ça, quoi. Donc, moi, m'exposer,
ouais.
Avec mon syndrome de Tourette aussi, y aller au front, et faire encore des conférences, faire encore des réunions d'information pour expliquer encore et faire comprendre que... Que oui, c'est possible aussi, même avec un syndrome, un handicap comme ça, où je suis quand même tout le temps en contact avec les gens, je pourrais être derrière un bureau.
Bien sûr.
Mais non, je suis exposée, je prends deux gym, je suis sophrologue, je suis exposée, donc les tics, on les voit. Donc il a fallu que forcément je fasse le travail sur moi pour pouvoir assumer tout ça et pour pouvoir être à l'aise, quoi.
Ça a été possible dès le début?
Alors, dès le début, en tant qu'entrepreneur. il est con ce thème, hein. En tant qu'entrepreneur, oui, parce que je savais déjà que j'avais le syndrome de Tourette. Je l'aurais pas su, j'aurais pas eu pu poser un nom dessus, ça aurait été très difficile. Quand j'étais salariée, j'ai commencé à être salariée dans des clubs de gym.
Ouais.
Voilà, comme il y en a partout maintenant, mais à l'époque, il y en avait très peu. Et j'étais bourrée de tics et la difficulté que je rencontre, enfin moi en tout cas, qui me pèse, c'est que j'ai toujours peur de ne pas être prise au sérieux.
Ouais.
Tu vois ? Je dois redoubler d'efforts. Déjà, bon, je suis une femme. Alors, j'ai commencé dans un club de gym où il n'y avait que des hommes, il y avait beaucoup de militaires. J'ai dû redoubler d'efforts pour montrer ma force. Heureusement, je suis très forte. Avec le syndrome de Tourette, on a une force incroyable. Mes compétences, etc. Et aussi par ma façon d'exprimer les choses, de les expliquer, donc de les avoir hyper intégrées, donc d'avoir beaucoup travaillé sur moi pour pouvoir expliquer et être cohérente, et être compréhensible, etc. Et montrer que non, je suis pas débile parce que j'ai le syndrome de Tourette. Parce que moi, si j'ouvre pas la bouche, si on me voit faire des tics, des machins et tout, franchement, le regard des gens, j'ai vraiment l'impression qu'on me prend pour une débile, quoi. Je dis pas ça débile dans sens péjoratif, mais pour une quelqu'un, qu'est-ce que je pourrais dire, une demeurée, voilà, enfin bref. Et donc pour moi, ça a été vraiment la parole, et donc les compétences, et donc un gros travail derrière pour pouvoir être prise au sérieux. Et ça fait pas très longtemps que je me sens vraiment prise au sérieux.
Te sentir légitime, ça te parle ?
Ah bah complètement.
Aujourd'hui, en tout cas.
Ouais. Aujourd'hui, je ne me pose plus la question.
Ouais. Ça m'amène justement à une question que je me suis posée, de savoir s'il y avait des personnes qui étaient porteuses de handicap, visibles ou invisibles, qui t'avaient inspirée et te permettent et qui t'avaient permis justement de te sentir légitime, de te dépasser pour être celle que tu es aujourd'hui.
Les personnes handicap, porteuses de handicap qui m'ont permis de me sentir légitime. Bah, c'est vrai que on en voit beaucoup parmi les artistes.
Oui.
Aussi.
Oui. De plus en plus.
Il y en a de plus en plus. Mmh. Je vois aussi de plus en plus de spectacles, de one-man show, de stand-up, etc. avec des gens, des pièces de théâtre qui mettent en scène leur propre parcours de handicap. J'en vois de plus en plus. Donc, je me dis que je suis dans cette lignée-là aussi. En effet, et là, du coup, en effet, oui, en voyant tout ça, en observant, je me dis que j'ai aussi ma place à ce niveau-là de témoigner, pour témoigner que ça peut, on peut transmuter ça, non pas passer de l'état de victime, si tu veux, à l'état non pas de vainqueur, mais simplement être un humain à part entière, ayant sa place dans la société, et même plus que ça, pouvant être aussi moteur, fer de lance, motivant, etc. Quoi. Donc oui, ça m'a... Je le vois
ça
autour
t'inspire.
De moi. Ça t'inspire. Et puis il y a aussi ma mère. Alors ma mère, elle est âgée, mais surtout elle a toujours souffert dans son corps. Tout le temps, tout le temps. J'ai toujours vu souffrir dans son corps, mais jamais à se plaindre. À se bouger, à toujours... elle ne peut pas rester en place, c'est un vrai diabolo. Et elle est... un vrai zibulon, plutôt. Et elle est tout le temps par monts et par vaux, même encore maintenant, à 95 ans. Là, elle est partie, pendant qu'on est en train de faire cet enregistrement, elle est partie jouer à la belote avec des copines. Elle s'occupe énormément des gens, elle s'est toujours occupée des gens. Elle a animé aussi des groupes de parole pendant toute sa vie. Elle fait partie d'une association où c'était vraiment un travail sur la parole, des échanges sur toutes les thématiques de la vie. Et moi, j'ai assisté à ça. Donc, pour moi et pour mes frères et sœurs, je pense que c'est un modèle, oui. Elle a son caractère. Et elle a subi énormément d'opérations. Elle se bouge, quoi. Elle se bouge pour ne pas être dépendante des autres. Et pour moi, c'est vraiment un modèle, oui. Ouais, vraiment, ouais.
Ça t'a permis de te construire, hein.
Ben oui, c'est clair. Elle m'a transmis, ou en tout cas, des valeurs sur lesquelles je me repose. Et quand je vois, des fois, si je peux, quelquefois, commencer à me plaindre sur mon sort, ce qui n'arrive plus, en fait. Ça arrivait quand j'étais jeune, mais plus maintenant. Mais si jamais ça peut arriver, je pense à elle. Je me dis, attends. Évidemment, il y a plein de malheurs dans le monde. Et tu peux te dire aussi, bah non, ouais, mais il y a ma mère. Il y a ma mère, et punaise, elle nous fiche une sacrée claque, quoi. Ouais. Donc, ouais. D'ailleurs, authentique, j'ai failli l'appeler bougez-vous le cul. Parce que c'est très vendeur, les injonctions. Voilà, il y a plein de livres avec des injonctions. Et puis, en fait, comme j'aime bien les jeux de mots, j'ai écrit. Authentique.
C'est bien authentique.
C'est pas mal.
Ouais, c'est voilà. Pas mal du tout. Merci pour ces réponses. On a eu différentes questions de nos auditeurs et il y en a une qui a retenu mon attention. Qui est celle-ci. Comment le succès ou le développement de ton activité a-t-il influencé la perception que tu as de toi et aussi ton attitude vis-à-vis de ton handicap?
Alors, le succès, c'est un bien grand mot. Disons que c'est... Alors, je précise un truc. Je vais t'avouer un secret. C'est que mon animal totem est un escargot. D'accord. J'ai appris ça dans une session de sophrologue il y a plus de 20 ans de ça. Et une chamane qui nous avait fait un rêve éveillé pour découvrir notre animal totem. Et moi, c'était un escargot. Voilà. Bon, bah, je l'ai gardé parce que... Voilà. Et puis, en fait, je me rends compte que je suis vraiment un escargot, en effet. D'abord, je fais les choses lentement, mais sûrement. Ouais. Donc, je n'ai pas eu un succès immédiat. Ça, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail dans le sens où c'est beaucoup de remise en question. Beaucoup de remise en question, beaucoup de... à jamais se reposer sur ses lauriers. Je ne me repose pas sur mes lauriers. J'ai fait beaucoup de formations, je m'informe. Je lis beaucoup de choses, je regarde, j'écoute, voilà. Et puis aussi, comment dire, je ne sous-estime jamais l'adversaire. Ça, c'est très important. Voilà. Et j'essaye toujours d'avoir quelques longueurs d'avance. Ça, c'est mon côté joueuse. Ouais, voilà. Ouais, et en fait, donc le succès, il n'est pas venu tout de suite. Et je me sens même pas être dans quelque chose, je me sens pas être dans le succès en ce moment. Je suis encore en train de toujours à me remettre en question, toujours à bouger, quoi, en fait. Alors, par contre, c'est vrai que mon activité prend de plus en plus d'essor, voilà. Donc, parce que c'est cohérent, parce que c'est un travail que je fais qui essaie d'être le plus juste possible. Je travaille sur la justesse. Quand on travaille sur l'ego, on travaille sur sa justesse, mais vraiment au cœur de la justesse. Donc, je m'applique à moi-même ce que j'enseigne. D'abord, c'est ça un petit peu, être cohérent aussi. Et ce que ça me renvoie, c'est surtout les autres. C'est... Moi, je vois que mon travail intéresse des gens. J'ai de plus en plus de contacts, de gens qui me posent des questions, qui m'interviewent, bah, comme toi notamment, qui viennent voir ce que je fais aussi dans mes stages d'initiation, qui viennent voir mes conférences, etc. Et puis aussi, je commence à être copiée.
D'accord.
Donc ça, alors ça fait pas plaisir à mon ego, c'est greu, mais en même temps, quand on commence à être copié, ça veut dire que quelque part, ce qu'on fait, c'est pas complètement
ouais,
c'est à côté de la plaque. Hein, voilà. Et puis il y a aussi, il y a de plus en plus de retours dans le sens où on me dit que le travail que je propose maintenant est vraiment unique. Même s'il y a plein de choses qui existent, il y a plein de gens qui ont fait un tas de trucs avant et qui me disent c'est unique, ça j'ai jamais fait. Et c'est opérationnel, les résultats sont bluffants, très rapidement. Moi je l'ai expérimenté pour moi, hein. Je me suis sortie de trucs, mais hyper dur quoi. C'est comme ça que j'ai créé mon approche, hein, à DAE. Donc voilà, il y a tout ça en fait. C'est à la fois moi, je me rends compte de ce que moi ça joue sur moi, parce que tout le travail que je fais sur mon ego. Ça me libère énormément de tous ces greux, tous ces trucs là qui font que je me sens plus illégitime, je me sens plus en plus à ma place. Et puis aussi, bah du coup, comme c'est énergétique tout ça, l'univers me le renvoie bien à travers les situations que je rencontre, les gens que je rencontre, les choses qui se proposent à moi, etc. Donc c'est ce feedback là que j'ai. Voilà.
Et est-ce qu'aujourd'hui, tu poses un autre regard sur le handicap, notamment autour du syndrome de Gilles de la Tourette ?
Alors, mon regard, il a changé depuis longtemps. J'ai écrit Authentique, il est sorti en 2017, ce livre. Je ne l'ai pas écrit pour faire ma thérapie, j'avais déjà fait le travail avant de l'écrire, sinon ça n'aurait pas été possible. C'était vraiment kamikaze. Donc, mon regard, il a déjà changé avant sur ce handicap. Et oui, pour moi, en fait, je l'écris dans Authentique, c'est un mot fort, hein, mais pour moi, c'est une grâce. Comme j'aime pas le gaspillage, j'en ai fait quelque chose. Je ne pouvais pas imaginer que je sois affublée d'une telle monstruosité. si c'était pas pour en faire quelque chose. D'ailleurs, ça sera le projet, c'est le projet de mon prochain livre, où je vais expliquer tout ça, encore plus en profondeur, de quelque chose encore plus spirituel, quoi. Voilà. Et c'est vrai que quand on subit quelque chose comme ça, pour soi, et qu'on se donne les moyens de s'en sortir, qu'on n'attend pas que ça tombe du ciel, que ça devienne des autres. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré la sophrologie. Et pour moi, ça a été mon plus grand miracle, en fait, quelque part. Et j'ai croché dedans, quoi. Et donc, mon regard, il a changé dans le sens où, oui, quand on a quelque chose de très dur, si on fait les bonnes rencontres, parce que la vie, c'est une histoire de rencontres, bonnes rencontres de personnes, mais aussi de méthodes, ça peut être des lectures, ça peut être un podcast, ça peut être n'importe quoi, une rencontre peut suffire à changer tout à fait le regard qu'on... Voilà. Mais ça ne se fait pas d'un coup. C'est progressif. Et puis c'est encore d'autres rencontres. Et surtout, c'est la motivation. Moi, ce qui me pousse à faire tout ce que je fais, c'est ma motivation. On dit toujours, quand tu veux, tu peux. Pour moi, c'est une grosse connerie, ce truc-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui a sorti ça, mais c'est n'importe quoi.
Je suis assez d'accord.
Parce qu'on veut, il y a plein de gens qui veulent arrêter de fumer, par exemple, mais c'est pour ça qu'ils le font. Si on n'est pas motivé derrière... Ça ne suffit pas, la volonté. Donc moi, ma motivation, elle est beaucoup plus haute que ça. C'est pas, ma motivation, ce n'est pas de guérir. Elle est plus haute que ça, ma motivation. C'est vraiment un élan de transmission, d'élévation de mon niveau de conscience en tant qu'humaine, et de montrer une certaine voie à d'autres humains, si ça peut déclencher quelque chose chez eux. Si ma rencontre, quelque part, peut déclencher aussi cette motivation, trouver à chacun sa motivation, mais en tout cas, d'aller plus haut, dans le sens où on peut éveiller sa conscience en tant qu'humain, c'est ça en fait. Devenir de plus en plus humain, parce qu'on n'est pas humain, hein. On est en voie d'humanisation, mais on est loin d'être humain. Hein. Et c'est toucher quelque part aussi le divin en nous, quoi. Pour moi, je ne fais pas la dissociation.
D'accord.
Entre l'humain et le divin. Parce que pour moi, on n'est pas encore complètement fini en tant qu'humain. Voilà. Mais après, il y en a qui vont dire, non, c'est pas vrai. Quand on est humain, justement, on a tous ses défauts et tout ça. Ah, mais ça change pas. Ça change rien. C'est pas parce qu'on est divin qu'on n'a pas de défauts. Au contraire. Mais c'est tout ce travail de cohérence, de congruence.
De congruence.
De congruence. Ouais. Voilà. Et d'être dans ce vrai.
Ouais.
Bernard Santerre disait la sophro c'est pas fait pour faire dodo, c'est fait pour être vrai.
Tout simplement.
Voilà. Tout simplement, on dit non, faut bosser pour aller à ça. Hein. Quand on dit sois toi-même, t'es marrante toi, on fait comment pour être soi-même?
Justement, ça m'amène à ça m'amène à une question pour autour des outils, des stratégies, autour de ce qui a pu t'aider toi. À dépasser, j'ai envie de dire.
À quoi ?
À dépasser. Toutes les épreuves qui sont liées au syndrome Gilles de la Tourette. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, avec du coup l'expérience, ta propre expérience en tant que personne, mais également avec toutes les personnes que tu as accompagnées, qu'est-ce que toi, tu viendrais proposer comme outil, comme stratégie pour pouvoir se sentir mieux, se sentir plus équilibré, pour pouvoir également alors, être équilibré à titre personnel, mais aussi dans sa vie professionnelle, en tant qu'entrepreneur particulièrement pour le coup.
Alors, quels outils tu dis ?
Ouais.
Quelle stratégie ? La sophro.
Heureusement.
Non, mais c'est vrai. J'ai rencontré beaucoup de choses et on ne peut pas tout faire. Donc, il y a certainement un tas de choses qui sont aussi hyper intéressantes et magnifiques. Mais bon, moi, l'univers m'a mis la sophro sur mon chemin. Donc, à un moment donné où je le demandais en plus. Donc, j'étais en dépression et voilà. Et puis, donc, la sophro. J'explique tout ça dans mon bouquin authentique, dans le prologue notamment. Il faut lire le prologue, c'est intéressant. La sophro. Et puis, oui, en effet, alors l'écoute centrée sur la personne. Tu Tu ne l'as pas cité tout à l'heure, c'est vrai. Bien d'autres choses, oui. Mais en effet, quand j'ai fait ma formation avec Swazik Roulina sur l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, ça a été pour moi énorme. C'est-à-dire que pendant ma formation en sophrologie, Bernard Santerre nous avait dit, tant qu'on ne fait pas un travail sur l'écoute, et notamment l'écoute selon Carl Rogers, on n'est pas fini en tant que sophrologue. Et moi, je m'étais juré de le faire, seulement moi, j'attendais le moment. Et puis, bah, ça s'est fait, voilà. Et ce travail-là est énorme. Pour moi, ça a décoincé énormément de choses. Et c'est à la suite de ça, mais il faut voir tout ce qui m'est arrivé depuis que j'ai fait ça. D'abord, en effet, ma clientèle a doublé. Mm-hmm. Bah oui, parce que mon écoute s'est améliorée. Parce que l'écoute, c'est pas simplement entendre et puis... c'est pas non plus l'écoute active, comme on dit, parce que c'est un travail vraiment sur soi où on change intérieurement, on devient, enfin, il y a une posture intérieure, c'est un état d'être qu'on acquiert dans ce travail-là. C'est énorme tout ce que ça a pu m'apporter, tout ce que ça a changé. Quand j'ai fait cette formation, c'est encore parce que je voulais grandir en humanité.
Ouais.
Encore, pas pour avoir un diplôme de plus, m'en fous. Mais la sophro et culture physique, ça me suffisait. Mais pour grandir en humanité, ah bah, dis donc, j'ai été servie. Hein. Parce que j'ai pris des claques aussi, hein. Mmh. Quand on veut grandir, il faut faire attention à ce qu'on demande à l'univers, parce qu'il nous sert, mais pas forcément comme on a prévu. Donc voilà, je pense que ce travail d'écoute, franchement, est indispensable. Mmh. En tant qu'entrepreneur, dans sa vie personnelle, parce que sans l'écoute, il manque un gros morceau. Quoi. Mmh. Voilà. On peut faire toutes les méthodes qu'on veut, toutes les techniques qu'on veut, si on ne travaille pas là-dessus, il manquera toujours quelque chose. Parce que c'est la vie, parce que c'est l'amour, parce que c'est la relation humaine. Et quand on est entrepreneur, on est en relation avec d'autres personnes. Et ce travail-là donne énormément de puissance. On n'est pas dans sa toute-puissance. On est dans sa toute-puissance quand on n'est pas justement dans ce travail-là. Mais ça donne de la puissance, ça donne du discernement. C'est de là aussi que vient tout mon travail en Adaé, hein. Le discernement, la remise en question. Et puis aussi, bah, en tant que sophrologue, évidemment, ça a énormément amélioré ma... Alors, c'est toujours à parfaire, parce que jamais tu m'entendras dire que je suis écoutée. Hein. Quand les gens me disent, moi, j'ai pas besoin, je suis écoutée, bon, je dis rien, mais ça doit sentir que ça hérisse à l'intérieur. Pour pouvoir dire, je sais écouter, attends, mais c'est énorme, quoi. C'est quelque chose tellement difficile. Et naturel en même temps, mais non, c'est difficile. Il y a plein de pièges dans lesquels on peut tomber. Et pour sa vie personnelle, avec ses enfants, avec son conjoint, avec la famille, avec les clients, avec les fournisseurs, avec l'administration, avec le garage. C'est énorme. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une application. Ça, c'est faire une formation en écoute. Voilà. Et puis évidemment, la sophro, l'EFT, c'est formidable aussi. Le Reiki, c'est autre chose. Le Reiki, c'est autre chose, mais ça apporte aussi... moi, ça m'a énormément développé, le Reiki. Énormément. Ça m'a beaucoup fait travailler sur mon ego. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
Est-ce que tu peux préciser un petit peu et le FT et le Reiki, hein, comment est-ce que ça a pu justement te permettre d'évoluer, hein?
Alors, le FT, en fait, ça a été une rencontre aussi. Hein, je n'avais pas prévu de faire le FT, mais ça a été une rencontre. Voilà. Je ne vais pas dire l'origine, parce que sinon le podcast va durer 4 heures. Mais en tout cas, moi, ça m'a appris l'EFT à là aussi, un certain discernement.
D'accord.
Mais c'est venu après ma formation en écoute. Et de ce que j'ai pu voir autour de moi, l'EFT sans ce travail en écoute, ça peut être cata, quoi. Ça peut être vraiment rentre dedans, quoi. Ça peut être violent. Ou alors pas du tout opérationnel, ou alors ça prend des plombs. Mmh. On passe à côté de quelque chose. Mais l'EFT, pour moi, était un outil de discernement où là, j'ai pu vraiment aller à la rencontre aussi de mes émotions, ce qui n'est pas toujours le cas en sophro. Mmh. C'est pas si évident que ça, d'entrer en contact avec ses émotions.
Ah, c'est un long travail.
Ce qu'on éprouve, ce qu'on ressent, etc. C'est pas si simple que ça. Donc là, ça a permis, en fait, déjà un travail de vocabulaire.
Ouais.
L'EFT permet un travail de vocabulaire. Parce que quand on reformule avec la personne, etc., et quand on écoute centré sur la personne, on apprend à reformuler. Bernard Santerre nous disait tout le temps, pour reformuler, il faut avoir beaucoup de vocabulaire.
Oui.
Il faut faire des mots croisés. C'est ce qu'il nous disait. Et l'EFT aide beaucoup à ça. J'ai pratiqué l'EFT bi-quotidiennement sur moi pendant 2 ans.
D'accord.
Donc ça m'a permis de travailler sur mon syndrome de Tourette de façon très profonde et puis sur plein d'autres choses. Mais en fait, le syndrome de Tourette, je ne travaille pas dessus. Je travaille sur toutes les choses qui provoquent l'éthique.
Sur les conséquences.
Sur les conséquences. Mmh. Travailler sur une maladie en elle-même, pour moi, ça rime à rien. C'est toutes les causes, c'est tout ce qu'il y a autour qui va. Et le fait est qu'à force de travailler dessus, l'éthique, il y en a de moins en moins, quoi. Mmh. Donc l'EFT, ouais, c'est énorme. Et puis le Reiki. Alors le Reiki, c'est un autre monde. Et moi, j'ai été amenée au Reiki, c'était pas prévu du tout dans ma vie non plus. C'est encore une histoire de rencontre, cette affaire-là.
Et aujourd'hui, tu es maître Reiki.
Et maintenant, je suis maître Reiki et j'enseigne et je forme des gens depuis 13 ans. Voilà, j'ai commencé en 2007. Et puis depuis 2010, j'ai formé pas mal de monde déjà. Mmh. Le Reiki, c'est extra. Moi, ça, c'est ma vie. J'en fais tout le temps. Je fais mon auto-traitement tous les jours, j'envoie du Reiki à distance à un tas de gens, pour un tas de situations, pour des conflits, c'est énorme, mais vraiment c'est fou le travail qui se fait avec le Reiki, et ça transforme petit à petit aussi, et parce qu'en fait avec le Reiki on peut plus tricher, on est en connexion avec l'univers direct quoi. Le Reiki c'est le souffle vital de l'univers, c'est une énergie pur et on peut plus tricher. Donc pour moi, ça fait partie aussi de ce travail, mais d'une autre manière, d'une manière non verbale.
Oui.
Tu vois, c'est-à-dire que
c'est subtil.
C'est très subtil. Autant en sophro, on est dans le travail de notre propre conscience qu'on développe par nous-mêmes en faisant les pratiques sophrologiques. Autant en Reiki, moi je définis ça comme le Reiki, c'est le souffle vital de l'univers, mais c'est la conscience de l'univers. Qui joue en fait avec notre propre conscience, et les deux savent très bien ce qui est juste pour nous. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est plus seul. Alors quand on fait un travail en sophro, puis en EFT aussi, et puis qu'en même temps on a ce travail avec l'univers, et qu'on fait ça quotidiennement sur soi, l'autotraitement, et puis un tas d'autres techniques, hein, parce qu'il n'y a pas que l'autotraitement, forcément ça fait bouger, ça nous met en face de situations qui, si on a le discernement, au lieu de dire « Oh, bah, ça marche pas ce truc-là, c'est nul et tout, j'attends des miracles et puis ça vient pas », de se dire « Attends, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça ? Où est-ce que j'ai pas été juste avec moi ?» Pas avec l'autre, hein, avec moi. Où est-ce que j'ai pas été juste avec moi ? Et quand on fait de la sophro en plus, alors là, le travail, il se fait, quoi. Et puis, il faut pas oublier que dans le Reiki, c'est pas que l'énergie avec les mains, etc. C'est aussi les idéaux du Reiki. C'est moitié Mika Oshui, c'est moitié l'énergie. Mika Oshui, c'est celui qui nous a légué le Reiki tel qu'on le connaît maintenant. Moitié l'énergie de l'univers et moitié les idéaux du Reiki qui sont au nombre de 5 et qui sont des préceptes qui permettent vraiment de faire un gros travail sur soi. Et il y a tout dedans. Et tout le travail qu'on peut faire sur l'ego, il est là-dedans. Et moi, je l'ai fait aussi. Enfin, je l'ai fait, je continue. J'essaie d'appliquer. Donc tout ça, ça se tient, tu vois. Et puis il y a aussi, j'en parle pas, mais le code de guérison. Le code de guérison, c'est une méthode américaine qui n'est pas du tout connue, pas trop connue du tout, qui est très intéressante. Et là, j'ai appris à travailler sur mes croyances. Et puis du coup, j'ai été beaucoup plus loin.
Voilà. Est-ce que c'est avec toutes ces techniques, donc la sophro, le EFT, le Reiki, et donc le code de guérison, effectivement je ne connais pas, que tu as pu concevoir et créer l'ADAI,
hein. Ouais, c'est tout ça. Ouais. Et aussi l'analyse transactionnelle que j'ai étudiée en partie pendant mes formations sur la gestion du stress et la prise en charge de l'épuisement professionnel, le burn-out, tout ça. Donc j'ai aussi appris, pas tout, hein, de l'analyse transactionnelle, mais suffisamment pour pouvoir travailler avec ça. Donc c'est le mélange de tout ça, en effet. Et c'est à partir de là qu'à un moment dans ma vie, où vraiment j'étais plus bas de terre, j'étais vraiment, j'ai vécu des choses extrêmement difficiles sur le plan psychologique, émotionnel, etc. Et c'est là que l'ADAI est née. C'est là que l'ADAI est née, en rassemblant tout ce que j'avais appris J'ai tout synthétisé pour pouvoir travailler sur mon ego. Parce que j'avais compris qu'avec tout ça, tu te rends compte, avec la gym, le yoga du rire, la sophro, le FT, le Reiki, etc., j'ai travaillé sur toutes les dimensions de l'être. Mmh. Bah ouais, et bah non, en fait, pas sur l'ego. On pense qu'on travaille sur son ego, mais on est vraiment en surface, quoi. Et là, j'ai compris. Bah, j'avais encore demandé, tu vois, c'était pendant une formation en Reiki, mais Reiki Karuna, qui est la suite du Reiki Usui, qui est Reiki de la compassion. J'avais demandé à grandir en spiritualité, décidément.
Et l'ego t'est tombé dessus.
Ah bah punaise, là, j'ai pris des sacrés claques, quoi. Faire attention à ce qu'on demande. Mais j'ai été servie. Et là encore, j'ai compris que j'aurais pas vécu ça, ça a duré quand même pas mal de mois, si j'allais pas en faire quelque chose. Et c'est quand j'ai compris ce qui m'arrivait, en fait j'étais en grande dépendance affective, que j'ai pu rebondir. Et c'est là que j'ai créé l'ADAE. Tout d'un coup, ça s'est fait, mais vraiment dans ma tête, pouf, comme si pouf, tout se... C'est comme dans les mangas, là. Pouf, et là, du coup, j'ai créé l'ADAE. Donc, alors, pour répondre à ta question précédente, pour les entrepreneurs, etc., eh bien oui, la sophro, bien sûr, l'écoute et l'ADAE. Parce que dans l'ADAE, il y a tout ça. Mais surtout, l'ADAE, on travaille sur son ego. Et l'ADAE, bah, c'est le cœur. L'ego, c'est le cœur du réacteur. C'est vraiment le cœur du réacteur. On peut travailler sur tout ce qu'on veut, mais si on ne travaille pas là-dessus, il manquera toujours quelque chose, et il y a toujours quelque chose qui merdera, et il y aura toujours des embrouilles avec un fournisseur ou avec un client, et on n'aura pas les sous qu'on veut, et on ne va pas gagner l'argent qu'on aimerait gagner. Il y aura toujours des trucs qui vont coincer. Et même avec soi-même, parce que ça part de soi. Et c'est ce travail-là que j'ai mis en place pour moi, que j'exerce sur moi depuis 7 ans. Donc il y a aussi tout ça qui m'a donné ma légitimité, qui fait que j'ai vraiment pris confiance en moi et que je me sens à ma place. Et du coup, avec tout ce que j'ai pu libérer comme souffrance égotique avec cette approche, que j'appelle approche plus que méthode, eh bien, par effet de... Comment on appelle ça, la loi de l'attraction.
Ouais, sérendipité aussi.
On est vraiment en plein dedans. Mmh. Et du coup, il y a plein de choses qui viennent. Mais sans que j'ai à forcer. Mmh. Donc, c'est... Ouais, c'est magique. C'est magique, mais derrière, il y a 30 ans de travail.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas arrivé tout seul.
Voilà. Et maintenant, c'est ce que j'essaie de transmettre aux gens. Et du coup, ils gagnent un temps fou. Et j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir aussi. Et des fois, en 2-3 séances, ça débloque des trucs. Et attends, il y en a une, elle m'a dit, j'ai jamais fait un mois pareil. J'ai jamais fait un mois pareil. Et dans sa famille, on a débloqué plein de choses aussi. En une, deux séances.
L'ego.
L'ego. Alors qu'elle me disait que ça faisait très longtemps qu'elle travaillait sur elle et tout. Voilà. Mais dans un sale état, quoi. Et à partir du moment où on a fait ce travail-là, ça s'est débloqué à une vitesse pas possible. Et maintenant, elle cartonne, quoi. Voilà. Et l'ego.
Et l'ego.
Ouais. L'ego.
Je suis ravie d'avoir eu cette conversation avec toi.
Tu
bavardes, hein, avec
quand tu branches, moi je suis partie, t'appuies sur le bouton et hop, je ne peux plus m'arrêter.
Mais non, mais c'est parfait, parce que c'était très intéressant et je suis persuadée que ça va intéresser nos auditeurs. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les différents sujets que l'on a pu aborder avec Anne aujourd'hui, en sous forme de référence. Je te remercie vraiment pour le temps que tu nous as accordé. On te voit tout à l'heure en conférence. À l'heure à laquelle on enregistre ce podcast, on va poursuivre avec une conférence dont le thème est comment trouver la paix intérieure avec l'égologie.
Avec l'égologie.
Justement. Oui, oui. Je ne saurais que trop vous conseiller donc de lire, de vous procurer les livres d'Anne. Vous retrouverez encore une fois les références dans les notes de l'épisode. Et je vous remercie tout à chacun de nous avoir écoutés. Je vous invite, si l'épisode vous a plu, à partager, à liker et à transmettre aux personnes à qui vous pensez que cet épisode et ce thème particulier du handicap et de l'entrepreneuriat pourraient être utiles. À très bientôt, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.
C'est la fin de cet épisode. Nous espérons qu'il vous aura permis de faire un pas de côté et de vous apporter de nouvelles pistes de réflexion et d'inspiration. Nous vous proposons de continuer à vous éveiller avec les autres épisodes à votre disposition. Partagez, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout retrouvez-nous le mois prochain.